Votre vie serait-elle très différente aujourd'hui si un certain Jésus de Nazareth n'avait jamais existé? Alors, il y a évidemment certaines choses qui ne seraient pas pareilles aujourd'hui, hein. On ne serait pas en 2014, par exemple, si Jésus de Nazareth n'avait jamais existé. Il n'y aurait pas 7 jours dans la semaine et il n'y aurait pas un clocher dans chaque village de France. Bon, ce sont des choses évidentes. Et bien sûr, si Jésus de Nazareth n'avait jamais existé, vous ne seriez même pas présent ici cet après-midi. Mais à part ça, votre vie serait-elle objectivement ou visiblement très différente? Est-ce que vous vous habilleriez différemment? Est-ce que vous parleriez différemment à votre conjoint, vos enfants, vos collègues, vos camarades, vos voisins? Est-ce que vous auriez des préoccupations différentes, des goûts différents, des loisirs différents? La réalité, c'est que pour beaucoup d'entre nous, si Jésus n'avait jamais existé, notre vie ne serait pas visiblement très différente en fait. Notre attachement à Jésus, la réalité, si on est lucide, c'est que notre attachement à Jésus n'est pas tel que nous nous démarquons naturellement du reste de la société. Puis d'un autre côté, on a des gens, à l'inverse si vous voulez, qui aimeraient beaucoup que Jésus n'ait jamais existé parce qu'alors ils ne seraient pas embêtés aujourd'hui par tous ces chrétiens obscurantistes qui cherchent à imposer leur morale à la société et qui cherchent à freiner le progrès. Il y a beaucoup de gens qui sont énervés par ça. Et c'est peut-être d'ailleurs ce que vous pensez aujourd'hui, je ne vous connais pas tous personnellement, hein. Donc d'un côté, on a des croyants dont la foi est souvent très discrète, et puis d'un autre côté, on a des gens qui pensent que les croyants font encore trop de bruit. Cette situation s'explique par la pensée postmoderne et laïque, ou je devrais plutôt dire laïciste, qui caractérise une bonne partie de la population, y compris malheureusement les croyants, et qui dit ceci. Tu as le droit d'avoir une religion à condition qu'elle ne se voie pas. Tu as le droit d'avoir une religion à condition qu'elle ne se voie pas. Mais le problème, comme on va le voir aujourd'hui à travers ce texte, c'est que dans la religion chrétienne, en tout cas, on a un conducteur qui n'est pas juste venu faire de la poésie. Il n'est pas juste venu, notre chef, il n'est pas juste venu faire de beaux discours. Il n'est pas juste venu nous faire du bien dans notre cœur. Nous offrir un appui personnel, émotionnel pour les moments difficiles, un peu comme une espèce de médicament homéopathique qui marche chez les uns et peut-être pas tant chez les autres, vous voyez? Mais c'est pas grave parce que chez moi ça marche. Pour moi c'est bon, pour moi ça marche. Alors au stade où on en est dans l'évangile selon Matthieu, on est sur le point, dans le fil du récit, on est sur le point de découvrir les enseignements et l'œuvre de Jésus, le héros du livre, hein, le héros de l'histoire. Et l'auteur veut qu'on ait bien conscience d'une chose avant d'entrer dans le vif du sujet. On n'est pas encore entré dans le vif du sujet, hein, jusqu'à la fin du chapitre 4, on est encore un petit peu dans un genre de préambule. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est ce qu'on va faire à partir du chapitre 5, du chapitre suivant, ben avant, l'auteur veut qu'on ait bien conscience d'une chose, c'est que tout ce qui va suivre, ce n'est pas juste une belle histoire capable d'inspirer de bons sentiments. Mais c'est plutôt quelque chose qui est censé avoir des répercussions énormes et visibles dans notre vie et dans le monde. Autrement dit, et n'en déplaise à la pensée postmoderne ou laïciste, la mission de Jésus implique du vrai changement. La mission de Jésus implique du vrai changement. On ne peut pas et on ne doit pas cantonner Jésus à la sphère du privé et de l'intime. C'est juste pas possible. Jésus de Nazareth a existé, il est venu et le monde en a été et doit en être bouleversé. D'accord? Vous êtes prêts? On lit le texte, c'est le chapitre 4 à partir du verset 12. C'est un passage un peu transition entre tout ce qu'on a vu jusqu'alors et tout ce qui va venir à partir du chapitre 5. Et on va changer un peu de registre à partir du chapitre 5, vous verrez ça la prochaine fois. Alors je lis à partir du verset 12, chapitre 4, verset 12. Lorsqu'il eut appris que Jean avait été livré, Jésus se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, aux confins de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe. Terre de Zabulon et terre de Nephtali, contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, Galilée des païens, le peuple assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. et sur ceux qui étaient assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume, et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Prions. Notre Dieu, nous te remercions encore ce soir pour ta parole qui est entièrement fiable. Et Seigneur, ce soir encore, nous implorons le secours de ton Saint-Esprit pour nous aider à comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous dire, ce que tu veux nous enseigner. Et non seulement à le comprendre, mais à le recevoir, à l'accepter et à le mettre en pratique pour ta gloire. Amen. Donc la mission de Jésus implique du vrai changement, du vrai changement. Et comment le sait-on ? D'abord, on le sait parce que, d'après Matthieu, dans ce texte, Jésus, en tant que Messie, est conforme à l'espérance d'Israël. C'est la première chose que Matthieu veut nous faire comprendre dans ce passage. C'est un thème, d'ailleurs, qui a déjà été évoqué, déjà été soulevé depuis le début du récit, mais Matthieu estime, à ce stade de son récit, il estime nécessaire d'insister de nouveau là-dessus, en montrant une fois de plus que les circonstances de la venue, de l'apparition de Jésus, sont conformes aux prophéties de l'Ancien Testament. Cette fois, dans le texte, Jésus est, d'après une prophétie, la prophétie qu'on a lue d'ailleurs tout à l'heure dans le livre du prophète Ésaïe, Jésus est la lumière qui s'est levée pour un peuple qui vit dans les ténèbres de la mort. Rien que ça, Jésus c'est la lumière qui est venue briller auprès d'un peuple qui vit dans les ténèbres de la mort. Et juste après, verset 17, après avoir fait remarquer ce détail, Matthieu nous montre que la prédication de Jésus est conforme à celle de Jean-Baptiste. Vous vous souvenez, quand on a parlé de Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il prêchait ? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Maintenant, on a Jésus, il prêche. Qu'est-ce qu'il prêche ? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est conforme à ce que prêchait Jean-Baptiste au chapitre précédent. En quoi consiste cette prédication ? Elle consiste à annoncer donc la venue du royaume des cieux et à appeler les auditeurs, par conséquent, à se repentir. La venue de Jésus, donc, accomplit les prophéties de l'Ancien Testament qui concernaient la venue du Messie, la venue promise du Messie, et la venue de Jésus coïncide avec la venue du royaume des cieux. Il insiste de nouveau là-dessus, tout simplement, Matthieu. Qu'est-ce qu'on est censé en déduire ? On est censé en déduire qu'à travers ce Jésus dont il est question, le héros du livre, le héros du récit, on est censé en déduire qu'à travers lui, Dieu va changer le monde. C'est tout. Parce que telle était l'espérance millénaire d'Israël. Depuis les premières pages de la Bible, ils attendent la venue de la semence, la venue du descendant de David, la venue du Messie qui va changer le monde. Matthieu nous renvoie ici, en quelque sorte, à ce stade de son livre, au cahier des charges du Messie. Il devait venir, ce Messie, il devait venir délivrer le peuple de Dieu du mal et de la mort. Il devait venir réconcilier la création avec le Créateur. Il devait venir rétablir le royaume de Dieu sur la terre. On arrive à ce stade du récit et, en toute logique, on s'attend à ce que Jésus fasse tout cela. Jésus, en tant que Messie, est bien conforme à l'espérance millénaire d'Israël. C'est comme quand on appelle le plombier pour qu'il vienne réaliser des travaux dans la maison. D'habitude, on se met d'accord sur la nature des travaux, on se met d'accord sur le montant du devis, et ensuite on signe un bon de commande. Et quelques jours ou quelques semaines plus tard, un homme en bleu de travail vient sonner à la porte avec une boîte à outils dans la main et des tuyaux sous le bras. On sait tout de suite qui c'est. C'est normal, on sait tout de suite qui c'est. Et on sait ce qu'il est venu faire. On s'attendait à sa venue. On s'attend à ce qu'il rentre dans la maison et à ce qu'il démonte la baignoire et à ce qu'il découpe des tuyaux et à ce qu'il remplace le chauffe-eau. On s'y attend. On s'était mis d'accord à l'avance. Il y avait un bon de commande, un cahier des charges, si vous voulez. Donc quand il arrive, on sait très bien ce qu'il est venu faire. Et il ne venait pas pour se tourner les pouces, pour boire le café, pour discuter, mais il est venu faire du vrai changement dans la maison. Et de la même façon, dans le texte, Matthieu nous renvoie au cahier des charges du Messie, en quelque sorte, pour que nous comprenions qu'il n'est pas venu, lui non plus, pour se tourner les pouces, pour faire de la poésie, pour boire le café, mais il est venu pour faire du vrai changement. C'est comme quand on élit un président. Normalement, il publie son programme alors qu'il est encore candidat pour qu'on sache ce qu'il compte faire une fois élu. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe d'habitude. Et en tant que Messie, Jésus est l'élu de Dieu et il a publié son programme à l'avance dans les pages de l'Ancien Testament. Donc quand Jésus vient, on sait ce qu'il est venu faire. Et on s'attend à ce qu'il tienne ses engagements. Et Jésus les tient toujours, ses engagements. En nous renvoyant aux prophéties de l'Ancien Testament, donc, et à la prédication de Jean-Baptiste en même temps, et à la venue du royaume des cieux, eh bien Matthieu, à ce stade du récit, nous renvoie donc au programme du Messie, en quelque sorte, pour qu'on s'attende, à ce stade du récit, avant de lire la suite, pour qu'on s'attende à ce que ce Messie, ce Jésus de Nazareth, eh bien, qu'il bouleverse le monde. Il veut qu'on ait cette attente, à ce moment du récit. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte que le conducteur des chrétiens est venu bouleverser le monde. Beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte que leur conducteur est venu bouleverser le monde. Beaucoup de gens s'intéressent à la Bible, s'intéressent aux textes des évangiles et les mettent sur le même plan que les enseignements de Confucius ou de Bouddha ou de Socrate. Mais qu'est-ce que Confucius, Bouddha ou Socrate a fait pour délivrer les hommes du mal et de la mort? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour délivrer les hommes du mal et de la mort? À ma connaissance, pas grand-chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour réconcilier la création avec son créateur? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour offrir aux hommes une espérance indestructible, pour offrir aux hommes la vie éternelle? Qu'est-ce qu'ils ont fait? À ma connaissance, pas grand-chose. Mais Jésus, lui, et le reste du récit nous l'apprendra, Jésus, lui, est venu et il s'est livré lui-même à la souffrance et à la mort de la croix, une mort terrible, une mort horrible. Il est venu se livrer à la souffrance et à la mort pour nous en délivrer. Il est ressuscité des morts ensuite pour sceller son triomphe sur toutes les puissances qui sont hostiles aux hommes, qui sont hostiles à Dieu. Et il va revenir un jour, il l'a promis, pour juger toute la création et à ce moment-là, la purger de tout mal, de toute souffrance, de toute injustice. C'est son programme de campagne, si j'ose dire. Il a dit à l'avance ce qu'il allait faire et il tiendra tous ses engagements, c'est sûr. Et il a déjà commencé à mettre en œuvre son programme. Et ça, c'est l'espérance d'Israël dans l'Ancien Testament. Et Jésus, en tant que Messie, Matthieu est en train de nous dire là, mais Jésus, en tant que Messie, est conforme à cette espérance. Vous voyez donc, déjà dans un premier temps, que la mission de Jésus implique du vrai changement. Et ce que Matthieu nous fait comprendre ici, c'est que ce changement, c'est un changement qui est attendu. Mais deuxièmement, c'est un changement commandé. Et là, à partir du verset 18, qu'est-ce qui se passe? Verset 18 à 22, Matthieu nous fait comprendre à ce moment-là, dans ces versets, que Jésus, en tant que Messie, a missionné des gens pour qu'ils agissent en son nom. En tant que Messie, Jésus a missionné des gens pour qu'ils agissent en son nom. Et donc le texte raconte la façon dont Jésus a appelé ses premiers disciples, Pierre et André, et ensuite Jacques et Jean, qui sont tous des pêcheurs, avec un accent circonflexe sur le « et ». Pêcheurs, ils pêchent du poisson. Et ce qui est remarquable dans cet épisode, évidemment, c'est la façon dont Jésus leur explique ce à quoi il les destine. « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Vous allez, dorénavant, pêcher des hommes. Ce que Matthieu est en train de faire comprendre à ses lecteurs ici, c'est qu'ils ne devraient pas être surpris, les premiers lecteurs de Matthieu, comme nous aujourd'hui d'ailleurs, mais d'abord les premiers lecteurs de Matthieu, Matthieu veut leur faire comprendre qu'ils ne devraient pas être surpris de rencontrer des gens qui cherchent à influencer le monde au nom de Jésus, par leurs paroles et par leurs actes, parce que Jésus lui-même leur a confié cette charge. C'est écrit là. Il les a appelés, il a dit, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Pas étonnant donc plus tard que ces mêmes personnes soient en train d'essayer d'influencer le monde par leurs paroles et par leurs actes. Les premiers lecteurs de Matthieu sont des gens qui auraient connu les apôtres, notamment. Ils auraient pu les rencontrer. C'est Pierre, André, Jacques et Jean, ils auraient pu les rencontrer en personne. Ils étaient relativement notoires, connus à cette époque-là. Et toute la première génération de chrétiens, c'était des gens très actifs, comme on le découvre dans le livre des Actes, très engagés dans la propagation du message de Jésus et dans la pratique des œuvres bonnes, si bien qu'à leur époque déjà, on découvre ça toujours dans le livre des Actes, hein, c'est le livre qui vient juste après les quatre évangiles, on découvre que certains accusaient les premiers chrétiens, je cite, d'avoir bouleversé le monde entier. Acte 17, verset 6. C'est dingue, hein, leur engagement. Parce que les gens les accusaient d'avoir bouleversé le monde entier. Même pas le temps d'une génération. Et déjà, on disait d'eux qu'ils avaient bouleversé le monde entier. Pas surprenant, parce que Jésus les a missionnés pour qu'ils agissent en son nom. Autrement dit, un chrétien dont la foi est visible et influente, c'est juste un chrétien qui fait son métier, si j'ose dire. Et on ne devrait ni être surpris, ni lui en vouloir à ce chrétien-là, dont la foi est visible et influente. Je suis sûr que vous avez déjà été abordé dans la rue par des gens qui réalisent des sondages. Et ils vous abordent toujours au moment où vous êtes très pressé. Ou bien, ces gens qui font des sondages, ils ont peut-être interrompu votre journée en appelant chez vous. Alors vous essayez de faire une sieste, ou vous vous appelez au travail. Alors vous étiez en réunion, ou je ne sais pas, vous étiez en train de travailler sur un projet très important. En tout cas, vous étiez très occupé. Et dans ces cas-là, on a tendance à être un peu irrité, n'est-ce pas ? Un peu impatient. On est tenté de s'en prendre au pauvre petit sondeur qui ne fait que son métier. En fin de compte, c'est pas de sa faute. Mais on est tenté de s'en prendre à lui, non ? Alors moi, j'ai développé une certaine compassion pour les gens qui font ce travail parce que un de mes premiers boulots rémunérés, c'était exactement ça. J'ai travaillé pour un institut de sondage dans une petite cabine avec mon téléphone, mon casque, tout ça. Donc je sais ce que c'est. Oui, on dérange les gens. Oui, on interrompt leur journée. Oui, on leur fait perdre leur temps, ça c'est sûr. Mais en même temps, c'est pas de notre faute. On fait notre métier, hein, on ne fait qu'obéir aux ordres de l'employeur. Et du coup, moi, ben, quand j'ai le temps, ben, quand je me fais aborder par un sondeur, si j'ai le temps, je réponds aimablement aux questions, sachant qu'il faut bien que ces sondeurs fassent leur boulot et qu'ils gagnent leur vie. Voilà, j'ai développé un peu de compassion pour eux. Mais de façon similaire dans le texte, ici, Matthieu veut nous faire comprendre que c'est normal pour un chrétien de faire certaines choses parce que c'est son métier à lui aussi, tout simplement, c'est sa fonction. Il obéit aux ordres de son employeur, aux ordres de son patron, de son chef. Jésus a fait de ses disciples des pêcheurs d'hommes. Comment voulez-vous pêcher des hommes sans que ça importune les gens ? Je me souviens d'une discussion que j'ai eue une fois avec un athée, une discussion virtuelle, puisque c'était sur une page Facebook consacrée à l'athéisme, et ce gars-là, derrière son pseudo, me disait « Mais vous êtes énervant à la fin, vous, les croyants, à toujours vouloir nous parler de Jésus. Mais c'est énervant à la fin !» Alors je lui ai demandé si ça l'intéressait de savoir pourquoi on n'arrêtait pas de parler de Jésus en tant que croyant. Il m'a dit « Oui, ouais, ça l'intéressait. » Et donc, je lui ai envoyé ensuite un message un peu plus long, en privé cette fois, pour lui expliquer ce que Jésus avait fait d'unique. Et pourquoi il était important et même logique que nous, les croyants, on en parle aux autres. Mais il m'a jamais répondu. Mais j'espère qu'il a lu au moins. Et donc, si aujourd'hui vous n'êtes pas croyant, si aujourd'hui vous n'êtes pas croyant, ou si quelqu'un qui écoute ce message sur Internet n'est pas croyant, n'en voulez pas aux chrétiens de vous parler de Jésus. Ne leur en voulez pas de vous inviter à l'église. Ne leur en voulez pas de prier pour vous. En fait, c'est la preuve qu'ils vous aiment. C'est la preuve qu'ils vous aiment. Et ils vous aiment de la part de Jésus. Ne leur en voulez pas non plus de promouvoir la morale et de rechercher le bien de la société. C'est la preuve qu'ils aiment le monde et ils aiment le monde de la part de Jésus. Ne leur en voulez pas donc. C'est normal ce qu'ils font. Et si vous êtes croyant, n'oubliez pas que Jésus, en tant que Messie, a missionné des gens dont vous faites partie en tant que croyant, pour qu'ils agissent en son nom. Est-ce que vous êtes prêt à agir dans le monde au nom de Jésus en tant que croyant? Est-ce que vous êtes prêt à agir dans le monde au nom de Jésus? Est-ce que vous êtes prêt à ce que votre foi soit audible et visible au risque d'importuner les gens, voire de les choquer dans cette culture donc, dont on parlait tout à l'heure, qui est postmoderne et laïciste et qui voudrait que notre religion ne déborde surtout pas de notre vie privée? Mais vous voyez, la mission de Jésus implique du vrai changement. Elle implique du vrai changement. Et ce que Matthieu nous fait comprendre ici, c'est que c'est non seulement, premièrement, un changement attendu, mais deuxièmement, c'est bien un changement commandé, que Jésus commande. Et troisièmement et dernièrement, c'est un changement manifeste. Un changement attendu, un changement commandé, mais troisièmement, un changement manifeste. Ce que Matthieu nous fait comprendre cette fois, versets 23 à 25, c'est que Jésus, en tant que Messie, exerce un ministère dont les fruits sont pratiques et ostensibles. Jésus exerce un ministère dont les fruits sont pratiques et ostensibles. Et là, le texte raconte que Jésus, ayant donc appelé ses premiers disciples, il commence à prêcher en public. Et non seulement il prêche, mais il guérit les malades, si bien que sa notoriété va grandir très vite. Jésus est en train d'annoncer ici aux gens comme une bonne nouvelle la venue du royaume, c'est-à-dire comme une bonne nouvelle sa propre venue et l'œuvre qu'il est venu accomplir en tant que Messie. Et pour illustrer aux gens cette bonne nouvelle de la venue du royaume, de sa propre venue donc, et de l'œuvre qu'il est sur le point d'accomplir, pour illustrer aux gens cette bonne nouvelle, pour attester la fiabilité de son message, Jésus guérit les malades. Il prêche cette bonne nouvelle, et pour l'illustrer, il guérit les malades, et pour attester aussi la fiabilité de ce qu'il dit. Il montre aux gens donc qu'il est venu opérer du vrai changement, du changement bénéfique et manifeste. Les malades sont guéris, les démoniaques sont délivrés, etc. Autrement dit, on doit s'attendre à ce que dans le royaume de Dieu, il y ait des différences évidentes par rapport à l'extérieur. Comme le dit l'apôtre Paul, je cite, « Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, sous-entendu en paroles seulement, mais en puissance, c'est-à-dire en fruits pratiques et ostensibles. » Et de même, Paul dit dans un autre passage, je cite, « Notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en paroles seulement, mais aussi avec puissance. » C'est-à-dire que pour Paul, l'évangile, le vrai, quand il est vraiment reçu, porte des fruits pratiques et ostensibles. Changement, un changement manifeste. Et donc le concept de croyant non pratiquant est une pure absurdité. Je suis chrétien, mais je ressemble à n'importe qui d'autre, je mène ma vie comme n'importe qui d'autre, j'ai les mêmes priorités et les mêmes valeurs que n'importe qui d'autre, c'est parce que je suis non pratiquant. Ça n'a pas de sens, c'est absurde. Imaginez que vous me demandiez mon métier avant que je devienne pasteur et que je vous réponde « musicien ». Ben oui, je suis musicien. Et ensuite, vous me demandez de quel instrument je joue. Ben aucun. Ah bon, vous êtes chanteur ? Non, je vais chanter de ma vie. Alors vous me demandez ce que je fais. Ben, qu'est-ce que je fais ? Je collectionne les partitions et je passe mon temps à lire des encyclopédies musicales. Eh ben, ça ne fait pas de quelqu'un un musicien, vous êtes d'accord ? Il est impossible d'être un vrai musicien sans que cela soit pratique et ostensible. Audible, notamment. Et porter une étiquette de chrétien, ça ne fait pas non plus de quelqu'un un disciple de Jésus. Passer son temps à lire la Bible, à écouter des prédications sur Internet et même à prier, ça ne fait pas de quelqu'un un disciple de Jésus. Qu'est-ce qui fait un disciple de Jésus ? C'est suivre Jésus. C'est suivre Jésus qui fait de quelqu'un un disciple de Jésus. Et celui qui suit Jésus a nécessairement une vie manifestement différente. Pourquoi ? Parce que Jésus, en tant que Messie, exerce un ministère dont les fruits sont pratiques et ostensibles. Il en est ainsi dans le royaume de Dieu, mes amis. Imaginez un peu, Jésus est venu bouleverser le monde. Il est venu délivrer une fois pour toutes les croyants des conséquences éternelles de leur faute, de leur culpabilité vis-à-vis de Dieu, de ce que la Bible appelle le péché. Jésus est venu réconcilier le monde avec Dieu. Et pour cela, il a bien voulu mourir d'une mort atroce sur la croix en guise de rançon, une rançon d'une valeur inestimable destinée à régler la dette que nous devions à Dieu. Jésus a ensuite triomphé de la puissance du mal et de la mort en revenant à la vie, en sortant victorieux du tombeau le troisième jour. Pourquoi il a fait tout ça? Il a fait tout ça en faveur des croyants. Et lorsqu'on place sa foi en lui, eh bien, il nous fait entrer dans son royaume, il nous arrache aux ténèbres et il nous fait entrer dans son admirable lumière. Mais ça ne s'arrête pas là, mes amis, ça ne s'arrête pas là. Parce que maintenant que nous sommes dans son royaume, maintenant que nous sommes ses sujets, maintenant que nous sommes attachés à lui par la foi, maintenant que nous sommes dans sa lumière, Jésus compte maintenant déployer son autorité dans notre vie. Et il le fait par la puissance de son esprit qu'il a déversé sur nous et en nous. Donc c'est pas par notre puissance, c'est par la sienne, la puissance du Dieu Tout-Puissant déployée dans notre vie pour nous transformer, pour que nous devenions non seulement moralement et spirituellement, mais aussi pour que nous devenions pratiquement des hommes nouveaux. Impossible donc d'être un croyant non pratiquant, ou un chrétien invisible, ou un disciple de Jésus immobile. C'est impossible. Avec Jésus donc, le changement c'est maintenant. Comme on l'a vu dans ce passage, la mission de Jésus implique du vrai changement. Du vrai changement, c'est un changement attendu, conforme à l'espérance millénaire de l'Ancien Testament, qu'on peut découvrir au fil des pages de l'Ancien Testament. C'est un changement commandé, puisque Jésus a mandaté ses disciples pour qu'ils changent le monde en son nom. Et c'est un changement manifeste, puisque Jésus veut porter du fruit manifeste dans la vie de tous ceux qui le suivent. Mais de nos jours, comme on l'a dit en introduction, on a des croyants, comme vous et comme moi, dont la foi est souvent très discrète. De l'autre côté, on a des gens qui pensent que les croyants font encore trop de bruit. Pourquoi ? Parce que, on le disait, notre culture nous enseigne que la foi appartient à l'intime et au privé. Et la culture nous enseigne que c'est très mal poli de vouloir proclamer cette bonne nouvelle, pourtant, en public. La culture nous enseigne que c'est très mal poli de rechercher le bien de la société, que c'est très mal poli d'assumer une vie qui se démarque ostensiblement de la norme. Ouh là là, que c'est mal poli. Et on finit par croire que Jésus est un film documentaire alors qu'il est un film d'action. On finit par croire que Jésus est un master de recherche alors qu'il est un master pro. Ça, c'est pour ceux qui sont à l'université. On finit par croire que Jésus est un livre alors qu'il est un coach. Alors maintenant qu'on est arrivé à la fin du chapitre 4 et qu'on s'apprête à entrer dans le vif du sujet, avec notamment le premier grand discours de Jésus en public qui va couvrir les trois prochains chapitres, chapitres 5, 6 et 7, eh bien, au moment d'entrer dans le vif du sujet, sachons, comme Matthieu a voulu nous le montrer à travers ce texte, que tout ce qui va suivre maintenant, tout ce qui va suivre, ce n'est pas juste une belle histoire capable d'inspirer de bons sentiments. C'est plutôt quelque chose qui est censé avoir des répercussions énormes et visibles dans votre vie comme dans la mienne et comme dans le monde. La mission de Jésus implique du vrai changement. Et c'est un changement salutaire. Je vous invite à prier. Merci notre Dieu pour la venue de Jésus. Merci parce que tu as tenu toutes tes promesses et tu tiendras toutes tes promesses. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour ce que tu accompliras. Aide-nous, s'il te plaît, à ne pas avoir honte d'être chrétiens, des disciples de Jésus. Aide-nous à assumer notre foi, même si elle va ostensiblement à l'encontre de la norme. Nous comptons sur toi, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit pour cela. Amen.